bonjour, ravi de vous retrouver dans Naturellement Vôtre avec mon ami, mon voisin, mon double, celui qui m'apprend plein de choses et qui nous en apprend à vous aussi, qui vous en apprend aussi à vous. Il s'agit bien sûr de Jean-Pierre Flory, le tout orchestré par Théo Lacombrade qui est avec nous. Et nous allons vous parler des autres animaux de la savane, puisqu'on a parlé des éléphants notamment. Voici les autres venus.
Naturellement Vôtre, le dimanche de 12h à 13h, sur RCFM.
Comment il va ?
Bonjour, mon double.
Ça va ?
Ça commence à faire du volume et du poids. Si
oui, enfin, moi je suis votre double, oui, vous non, mais moi je peux l'être. Ouais. Alors, on a plein d'animaux qu'on va pouvoir passer en revue, parce qu'on a parlé des éléphants il y a quelques temps, mais là il y en a d'autres.
On va parler des petites bêtes qui sont dans la savane, et pour survivre dans cette savane, il faut quand même être sérieusement rusé, coriace.
Eh, parce que surtout.
Petit mais costaud, hein. Il y en a qui a marché sur la queue de l'éléphant, là.
Oui, à mon avis, il est pas content, hein.
Vous savez, c'est l'histoire de la souris qui rentre dans la trompe, ça.
C'est clair. Hein.
on va se permettre de citer ce bon Lafontaine, hein, qui aimait les petits. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour à un moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Et c'est bien sûr le moucheron qui gagne. Et là, bien sûr, la conclusion, c'est les plus terribles sont souvent les plus petits.
Hein. Oh oui.
Et puis aussi, ce lion fut pris dans des raies, dont les rugissements ne purent le défaire. Si rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporte tout l'ouvrage. Bien sûr, la suite, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Monsieur de La Fontaine,
vous qui aimez les petits.
Merci.
N'avez-vous pas fait attendre le roi sous prétexte que vous étiez à l'enterrement d'une fourmi ?
Joli.
Pas mal, hein ?
C'est joli.
Prenez des notes.
Non, mais je crois que ça.
Nous, les petits, nous aimons ça aussi. Hein, c'est... Alors, on va se poser la question. Ce rat, là, qui a défait les raies, le filet.
Le filet.
C'est celui du rétière chez les gladiateurs. C'était quel rat ? On va faire une énumération, justement, pour montrer.
Il y a un paquet, là.
Ah bah, les rats musqués
en
savane, il va peut-être y en avoir, puisqu'il n'y avait aucune raison qu'il y en ait sur le continent français, ils viennent des Amériques du Sud, des Amériques centrales. Alors qui était ce rat ? Est-ce que c'était un rat palmiste ? Est-ce que c'était un rat à trompe ? Un rat à trompe à damier ? Un rat à crinière ? Alors peut-être ce serait un rat à crinière, ce serait un peu provocateur par rapport au lion, hein. Parce que ce rat à crinière, il a quand même une crinière qui est proportionnellement plus belle que celle du lion.
Hein. Ah bon ?
Eh oui. On va rencontrer des centaines de mammifères dans la savane, on ne va pas parler de tous. Et on va parler, il y a des noms qui sont sympas aussi, du zorille.
Ah, c'est joli le zorille.
Oui, j'ai bien dit le zorille.
Le zorille, hein.
Mais on va quand même dire gare aux oreilles.
Gare aux oreilles, oui.
Parce que c'est
pas confondre avec les oreilles qui sont les
oui, bon, justement, oui.
Les européennes.
Les oreilles, c'est ceux qui tendent l'oreille tout le temps à la Réunion.
Par exemple.
Pourquoi pas, on va parler alors du ratel, c'est un petit peu son cousin, du pangolin, de l'oryctérope, enfin, on va avoir l'impression d'aller se balader un peu dans les insultes
du capitaine Haddock. Mais dis-toi, je pense à un truc, j'en ai tout le temps entendu parler par mon père, les agoutis, ça existe en Afrique ou plutôt en Amérique du Sud?
Non, c'est plutôt en Guyane. Hein. L'agouti, c'est le plus grand rongeur que le créateur jusqu'à maintenant nous ait donné. Alors vous évoquiez tout à l'heure le rat musqué, on imagine un rat musqué avec un peu moins de fourrure, mais qui peut faire, c'est le cabaye, hein, qui peut faire 50 kilos.
Ah oui.
Et puis donc les mêmes mœurs que le lapin, mais là on est plutôt dans le gigantisme, alors que là on va plutôt parler d'une forme de nanisme, pas du tout. Ils sont comme ça, c'est comme ça que l'évolution a fait évoluer, a créé toutes ces espèces. On évoquait le rat à crinière tout à l'heure.
Oui.
Alors celui-là, il a une crinière qui est plus belle que celle du lion. Il n'a pas la force, mais il a la ruse. Hein. Puisque il mastique de l'écorce de certains arbres de la savane pour en retirer un poison. Et ensuite, il badigeonne cette fameuse crinière, son pelage. Et quand un prédateur le menace, il montre sa crinière.
Hein.
Il se laisse mordre, sa crinière épaisse le protège, et le prédateur ingère du poison et il crève.
C'est
quand même pas mal.
C'est bien fait, quand même.
Alors les plus gros animaux peuvent y passer, c'est-à-dire que ça peut tuer des chacals, des renards et même, pourquoi pas, un lion. Parce qu'on va voir que très souvent, quand le lion traîne la patte, ça peut être aussi à cause d'un beaucoup plus petit que lui.
Mais Jean-Pierre, ils ne sont pas assez intelligents pour reconnaître leurs prédateurs, ces animaux-là.
On peut se poser des questions si le roi, si le lion,
il est si couillon que ça, quoi.
Parfois le roi des couillons.
Ouais.
Parce que on sait, alors on va évoquer pourquoi pas le porc-épic, j'ai vu. Des lions qui étaient des lions adultes, donc dans la force de l'âge, pourquoi pas des mâles avec leurs 200 kilos qui faisaient plus que 120 kilos, qui n'avaient plus que la peau sur les os, parce que ces couillons-là, avaient encore une fois voulu attaquer un porc-épic. Et le porc-épic, il se défend en larguant ses épines, ses pics, ses pointes, et ses pointes sont armées d'ardillons. Donc ça reste dans la patte. La patte, elle commence à s'envenimer. Ensuite, il y a une forme de septicémie qui arrive là-dedans. Le lion ne peut plus courir, donc il ne peut plus chasser. Et c'est lui qui devient proie. Et la petite bête, le porc-épic, qui fait quoi, 10 kilos tout mouillé, c'est lui qui a le dessus sur le lion, sur la force, la puissance, mais parfois aussi la vanité, peut-être. Celui-là, c'est un petit, on va l'avoir.
Ouais, on va l'avoir. Non, mais j'étais persuadé que eux-mêmes, les lions ou d'autres prédateurs, savaient très bien que, par exemple, un porc-épic, on s'y attaque pas, un porc-épic, quoi. Mais là, non.
Oui, non, mais bien sûr. De même que beaucoup d'animaux savent qu'il ne faut pas manger telle ou telle plante.
Oui, exact. Alors pour les plantes, ils savent, mais pas pour...
Il y a sûrement un problème.
Affamé,
alors justement, ce poison, c'est le même dont se servent certains chasseurs, peut-être les bushman ou des gens comme ça, pour empoisonner leurs flèches.
D'accord.
On ne sait pas, on n'arrive pas à expliquer comment ces rats à crinière, eux, résistent au poison. Parce qu'il faut savoir qu'ils se l'enduisent avec la langue.
Ils ont l'antidote.
C'est quelque chose.
L'antidote, peut-être, je sais pas.
Oui, tout à fait. On continue avec les rats, puisque c'est très bien. Alors, il y en a un qui est superbe, qui s'appelle le rat trompe.
Le rat trompe.
Non, je me trompe.
Ah bon?
Le rat
Donald.
À trompe, à damier.
Adamier.
Parce que c'est A-A. Après, il y a
un
rat à trompe, mais ils ne sont pas tous rats à trompe, à damier. Donc, le damier, pourquoi? Parce que la fourrure représente, est de deux couleurs, et ça représente un damier. Ça ressemble à une musaraigne géante. C'est un museau très long, très très mobile. C'est très haut sur pattes. Ça fait quand même 50 cm avec la queue.
Oh, c'est pas mal.
Et ça saute comme un kangourou. C'est assez étonnant. Et alors, une autre particularité pour des animaux qui vivent dans la savane, ils ne boivent jamais.
Ah bon ?
Oui. Ils trouvent bien sûr, ils ont besoin de s'hydrater, mais c'est dans leur nourriture qu'ils trouvent à boire.
Donc, c'est des herbivores.
C'est des herbivores. Mais on pourrait aussi... ils vivent un peu comme des musaraignes. C'est-à-dire que les musaraignes, elles, ne sont pas des herbivores. Mais il y a dans les proies carnées, il y a quand même une certaine partie d'eau dedans. Du sang, de l'eau, des choses comme ça.
Alors, j'ai trouvé aussi un rat qui est rigolo. c'est celui qu'on appelle le rat de Gambie. Ce petit rongeur-là. Et ce que j'ai trouvé assez étonnant chez ce rat, c'est qu'il détecte le bacille de Koch, qui est la bactérie qui est responsable de la tuberculose.
Ouais.
Et je trouve ça assez curieux.
C'est un grand détecteur, le rat de Gambie, parce que c'est un costaud. Hein. Il fait pas un petit
kilos,
rat.
2 kilos, je crois. 2 kilos.
Oui, oui, c'est une... mais il sert aussi de détecteur pour les mines.
Ah oui, d'accord. Il s'en sert.
C'est-à-dire qu'il a un blaire fantastique. Et en plus, si par hasard il se trompe, ça ne va pas faire pleurer forcément les gens. Quoi. Ça fait. Mais il y a énormément, hélas, d'endroits qui ont été extrêmement minés, en particulier à cause des guerres de décolonisation du Mozambique, du Portugal. Donc Guinée, Angola, Mozambique. Et il y a encore des endroits qui sont des vrais champs de mines. Quoi. De moins en moins, parce qu'il faut savoir que justement, ces pays ont retrouvé une paix relative, même une paix réelle par rapport à ce qu'il pouvait y avoir pendant les belligérances. Le nombre d'animaux a augmenté. Donc plus il y a d'animaux, plus il y en a qui sont susceptibles d'aller marcher sur les mines. Donc plus ça démine. Enfin bon, voilà, c'est ainsi.
C'est la bêtise humaine.
Ah oui, ça, c'est pas les pauvres rats de Gambie,
ils sont
strictement pour rien. Quoi.
Et en plus, ils peuvent nous sauver, puisqu'ils sont apparemment... ils soignent pas mal de personnes, notamment dans l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est, qui sont atteintes
de la tuberculose. C'est fantastique, d'avoir... Vous savez, l'intervention, justement, on voit là... on a encore beaucoup de choses à aller chercher en regardant l'éthologie des animaux, la façon... On a évoqué tout à l'heure, la semaine dernière, la façon dont les singes se servent de la pharmacopée.
Oui,
On commence, les humains commencent bien sûr à... Une fois qu'on a regardé ça, c'est relativement facile d'essayer de les imiter et de savoir pourquoi ils le font. Hein. Mais on sait depuis longtemps, par exemple, que... j'en ai peut-être déjà parlé, à Madagascar, les gens... certains médecins qui sont à mi-chemin entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, ce qui est une démarche que moi je trouve extrêmement bien, par exemple, ont un moyen de diagnostic pour le diabète sénile.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire que, en général, les types vont consulter, ils ne sont pas très fiers de ça, parce que la première manifestation, c'est qu'ils voient très bien qu'ils ont vieilli, les gars, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Hein, et donc, ils vont voir un petit peu en catimini. Et la première chose que fait le médecin, c'est d'appeler un gamin et demande à ce gamin de pisser sur une fourmilière.
Oui.
L'enfant fait pipi sur la fourmilière, les fourmis s'en vont. Hein. Il demande après à ce monsieur qui est censé avoir un diabète, il fait pipi sur la fourmilière, les fourmis restent pour manger le sucre qu'il y a dans les urines.
C'est extraordinaire.
Donc c'est un laboratoire extraordinaire.
Vous savez combien de temps met un rat pour débusquer ? On peut vous parler des mines. Combien de temps ? 20 minutes et 5 jours pour un être humain.
Ah ouais ?
Mais ça fait un sacré ratio quand même.
Oui, tout à fait.
Oui. Alors, d'autres rats ?
Alors, les rats, bon, il y a bien sûr... il y en a ici, il y en a ailleurs. Le fameux rat palmiste qui ressemble plus à un écureuil. Mmh. Hein. Qui sert, alors c'est aussi, on va évoquer ça très souvent, c'est le grand classique des viandes de brousse, hein, puisque c'est bon la viande. On appelle ça rat, les pauvres bestioles, mais ça ne vit pas dans la saleté du tout.
Moi-même, j'en ai mangé.
Au Cameroun, on avait crapahuté comme des fous. Nous, blancs, on n'avait plus rien à manger. Nos amis pisteurs, n'ont pas été gênés pour trouver directement de quoi manger. On arrivait dans le lit d'un arroyo qui était asséché. Là-dedans, il y avait des rats palmistes. Ils ont su s'en servir immédiatement. Quoi. D'ailleurs, on en a mangé. Quand on a faim, on ne regarde pas.
Non, ça c'est clair. Mais ce n'est pas mauvais. Hein.
Non, mais bien sûr. Bah, c'est la sauce qui fait le poisson. Alors, pour pouvoir comparer des viandes, on l'a souvent évoqué, il faudrait qu'elles soient préparées de la même façon. Hein. C'est-à-dire que si vous donnez un filet mignon, le meilleur qu'on puisse avoir, et que vous le boucanez et autres, et que vous mettez une sauce extrêmement pimentée, ça aura exactement le même goût que la pâte avant-gauche d'une vieille antilope. Hein.
Pour parler des rois palmistes, Jean-Pierre, des rois palmistes qui sont très présents.
Vous savez ce que c'est, un
roi
de rats ?
Non.
Les rats... Ça existe, hein, on a retrouvé ça, ça s'appelle un roi de rat.
Un roi de rat.
Pourquoi, je sais pas. Donc c'est peut-être l'origine de votre lapsus. Les rats, dans certaines circonstances, sont tellement nombreux, et il y a tellement de promiscuité à l'endroit où ils habitent, qu'ils finissent par se lier par la queue.
Ouais.
Donc les queues font des nœuds, et ensuite, ils ne peuvent pas les défaire. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, c'est qu'on a retrouvé, donc c'est rare en général, les rois de rats, on les retrouve crevés, mais comment font-ils pour manger ? La question que vous allez me poser.
Je ne sais pas du tout.
Eh bien, ces rats auxquels on jette un tas d'opprobes, ils sont quand même extrêmement solidaires, parce que c'est les autres rats de la communauté, ceux qui
viennent
qui viennent leur donner à manger. Il y en a des leçons.
Beaucoup. Et d'ailleurs, sur les rongeurs, sur ces rongeurs-là, les rats palmistes, je reviens parce que tout le monde sait que j'ai vécu au Sénégal et c'est un fléau. Ils pullulaient tellement qu'ils flambaient toutes les cultures. Parce que là, quand il y a une descente de rats palmistes, c'est le mil, le sorgho, le maïs, tout y passe.
Tout y passe, bien sûr. Le pire. Ce ne sont pas des mammifères, ce sont ces oiseaux qu'on appelle les mange-miles.
Ah oui, alors ceux-là...
Qui sont des petits piafs qui font à peine la moitié d'un moineau, mais ces mange-miles sont par milliers, dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'on a vu des vols qui ressemblent aux vols des tourneaux, mais ces vols peuvent durer un quart d'heure, ça défile pendant un quart d'heure. Et quand ils sont au sol, on a l'impression qu'il y a un combat d'éléphants tellement ça fait de poussière. Et après, une fois qu'ils ont mis le nez dans le champ de mille...
C'est fini. Hein. On va écouter une chanson, vous voulez, il s'appelle Pedro Brach, il a une voix magnifique, je vous proposerai aussi... la version originale de 1962 d'un chanteur qu'on aime bien, Jean-Pierre et moi, vous voyez pas. 1962, autour de la savane, qui c'est qui chantait?
Julien Clerc.
Non, à 62, à mon avis, Julien Clerc était encore dans la
Non, il était pas né, parce que c'est normal.
Non, ce sera Harry Salvador, on en parlera tout à l'heure. On écoute Pedro Brach, on se retrouve avec Jean-Pierre pour parler de ces petits animaux de la savane.
Fatta di scoglie di verdura, sia bellezza di una dura, tutti li porteremo un cuore. Tu Corsica mai un more. Quasi un paese non c'è più nimo, ci ferma solo una ruina. Di scoglie di verdura, sia bellezza di una dura, tutti li porteremo un cuore. Tu Corsica mai un more.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Après vous avoir parlé des grands singes, vous avoir parlé aussi des éléphants avec Jean-Pierre, on a jeté notre dévolu sur des petits animaux, qui sont des petits ou des plus grands d'ailleurs, ces petits animaux qui peuplent la savane. On a parlé des rats, il y en a beaucoup quand même. Et puis là il y en a un qui est un peu assez particulier, je ne savais pas qu'on considérait comme un rat celui-là. Non, c'est pas un rat lui.
Non, vous voulez parler des pangolins?
Pangolins, oui.
C'est pas un rat. Non.
Non.
D'abord, les rats en général sont des rongeurs. Là, le pangolin, on va parler d'un animal qui est définitivement insectivore, puisque c'est beaucoup plus facile de dire que c'est un fourmilier.
D'accord.
Pangolin et fourmilier, ça se ressemble
même
beaucoup.
Même combat. Tatou.
Alors, comment il est fait? C'est un animal qui est cuirassé.
Exactement, c'est un animal préhistorique, Jean-Pierre.
Ah, complètement. Ça, oui. Il est recouvert d'écailles, des écailles triangulaires. Et qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ça ressemble à une toiture.
Oui.
Aussi à une pomme de pin, si vous voulez.
Exact.
Tel que c'est fait. Alors, ils s'enroulent quand ils sont attaqués. Hein, comme les mille-pattes, par exemple. Hein, comme les hiules. D'ailleurs, on le retrouve sous diverses formes, sur au moins 3 continents. Pangolin, c'est un nom qui vient du malais. Ça veut dire celui qui s'enroule.
Hein.
Il existe en Afrique centrale et du Sud un cousin qui s'appelle le tatou.
C'est le même.
Tatou, c'est un mot marrant qui, effectivement, est peut-être plus connu que pangolin. Mmh. Le tatou géant, il fait 55 kilos quand même.
Ah, c'est une petite
avec
belle
ses écailles. Donc ça ressemble à une tortue ou j'allais dire à un char d'assaut.
Mais en plus, les écailles sont très dures, hein, Jean-Pierre, apparemment.
Ah oui, tout à fait. Ce pauvre tatou, alors tout à l'heure on parlait du rat qui lui était capable de faire combattre, qui était le bacille de Koch, donc la tuberculose. Celui-là, au contraire, le pauvre, il a été trucidé parce qu'il semblerait, et là, ce que ce soit vrai d'ailleurs, qu'il soit vecteur de la lèpre.
Ah oui, d'accord.
Donc le fourmilier en question, il est trucidé. Alors tout n'est pas perdu. Il sert à faire les fameux charangos. Vous savez ce que c'est un charangos ?
Charangos, c'est un instrument de musique.
Et ben voilà, j'allais dire demander à Antoine, il doit le savoir.
Mais oui, un instrument de musique.
Et oui, c'est une sorte de sitar, donc ça fait
la caisse de résonance.
La caisse de résonance. Donc on joue du pangolin.
C'est pour ça d'ailleurs que les braconniers s'en régalent.
Bien sûr, mais on se souvient que la musique est extrêmement animale. Le violon, c'était pendant très longtemps des boyaux. Le crin de l'archer, c'était des crins de chevaux. La cire était bien sûr d'origine animale. Les meilleurs tambours étaient faits avec de la peau d'âne. Et puis, bien sûr, il y a certainement infiniment de choses. On revient à nos pangolins ?
Oui, bien sûr.
On n'en parle pas assez des pangolins.
Tatou, pangolin, moi j'aime bien les noms, je trouve qu'ils c'est...
Ah oui,
moi c'est... Hein, Tatou, pangolin, ça fait gentil, quoi.
Oui, c'est vrai.
Ils sont gentils, probablement.
Oui, parce qu'ils sont alors totalement inoffensifs, ils n'ont quasiment pas de dents.
Aimer les griffes.
Ah, ils ont les griffes, ça, il faut faire très, très attention à ça. N'allez pas jouer avec un pangolin le soir en rentrant à la maison. Alors, et surtout qu'il y en a un qui est géant. Ça veut dire qu'il y en a un qui est plus petit, d'ailleurs. Il y a plusieurs espèces en Afrique. Si vous prenez le nez, qui est relativement long, et tout le reste, le tout petit bout de queue, parce que ça ressemble beaucoup à une tortue, mais ça fait quand même 1,50 m de longueur.
Avec la queue,
Avec la queue. Ce sont avant tout, alors on va le dire de manière savante, des myrmécophages.
À vos souhaits.
Ça mange des fourmis. Voilà.
C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le fourmilier.
Le myrmillon, vous vous souvenez, le myrmillon, toujours là. Tiens, on a la référence extrêmement gladiateur. On a parlé des rétières, ceux qui avaient le filet. Et les myrmillons, c'est ceux qui se battaient contre les rétières. Pour pouvoir manger,
c'était les soldats d'Achille. Donc. Les soldats d'Achille.
Voilà. Et notre pangolin, une langue
bien
adaptée,
pendue.
Oui, bien pendue, lui aussi, pour aller fouiller. Elle fait jusqu'à 30 cm de long, sa langue.
Ah, c'est un peu comme les caméléons, quoi.
C'est un peu comme les caméléons, oui, parce que c'est une langue qui est gluante aussi, comme le caméléon, mais il ne la projette pas. Lui, il va mettre son nez un petit peu partout, si j'ose dire. D'ailleurs, au passage, apparemment, il ne doit pas manger que des fourmis aussi, peut-être d'ailleurs, parce qu'on le voit assez souvent fouiller, mettre son nez dans le caca d'éléphant. Qui est extrêmement nutritif quand même.
Oui.
Parce que l'éléphant, ce gros pépère, il mange beaucoup, mais il digère très mal.
Et donc, il
y a énormément de choses très intéressantes que je vous invite à découvrir
bien sûr.
Le caca de l'éléphant.
Bien sûr, on fera ça quand on ira faire une petite tournée en Afrique. Hein, Jean-Pierre.
Voilà. Les écailles, alors, ça sert avant tout, bien sûr, à résister à la dent des lions, etc. Et aussi, ça devient extrêmement hermétique, parce que c'est capable ça résiste à l'acide formique. Quand ils vont mettre le nez dans la fourmilière, elles ne sont pas contentes. Elles seraient capables de tuer. J'ai vu récemment des images de fourmis qui s'attaquaient à une tortue et qui commençaient à bouffer les yeux. Et 3 jours après, il n'y avait
plus rien.
Il y a juste de quoi faire une mandoline. Il restait juste ça.
J'aime bien l'image.
Alors, il se met en boule, mais il ne se fâche pas. C'est la défense. C'est un peu comme les hérissons. Au lieu d'avoir des piquants, il a des écailles.
Et puis, il se déplace lentement, dites-moi. Il n'est pas...
C'est pas un rapide. Il est quand même...
C'est pas un solitaire.
Vous brûlez les lèvres.
Oui, je sais que...
Comment fait-il avec cette cuirasse?
Et oui, justement.
Est-ce qu'il retire?
Comment il fait?
il fait normalement. Il sait y faire avec la cuirasse. Et là, elle reste.
Et le missionnaire, donc.
On l'a longtemps cru, de même qu'on a longtemps cru que les hérissons faisaient ça aussi. Mais non, ils sont...
Ils sont équipés.
Ils sont... Oui, il faut...
La nature est bien faite.
Bien sûr. La dame à la naissance, elle fait comment pour mettre bas un truc plein d'écailles comme ça?
Je sais pas du tout.
Eh bien, les écailles sont molles.
Oh, c'est bien fait, la nature.
Et voilà. Donc, dès que ça arrive à l'air, 2 ou 3 heures après, ça durcit. Exactement. Comme un insecte, par exemple, qui sort de sa chrysalide, il est relativement mou et immédiatement, au contact de l'air,
la chitine
se durcit.
Mais alors, ils vivent pas en famille, là, apparemment. Lui,
monsieur Fourmilier ne s'occupe pas trop de ça. Par contre, il y a un truc qui est amusant, c'est le petit, parce qu'il n'y a qu'un petit par portée.
Ouais.
Il reste assez longtemps dépendant de la mer. Bien sûr, il tète, malgré la cuirasse, c'est assez marrant. Et pour se déplacer, il s'accroche, il est tout seul, à la queue de la mer. Il est sur le dos, il s'accroche à la queue.
Mais parce qu'il a déjà ses griffes, lui.
Il a déjà ses griffes. Alors, les griffes sont extrêmement importantes, et c'est bien de revenir là-dessus, parce qu'elles servent effectivement à fuir, et non pas à fuir. Ça leur permet de complètement abîmer les fourmilières, et pourquoi pas les termitières, hein, parce qu'elles doivent aimer ça aussi, et aussi à faire des terriers, parce qu'ils vivent dans des terriers.
D'accord.
Il y a un cousin dont on parlera peut-être si on a le temps, c'est l'Eurictérope, simplement pour le nom.
Hein, c'est compliqué.
Ah oui,
le nom.
On parlera. Il a une tête de cochon, mais il n'est pas méchant du tout. Et il fait un tas de terriers, et ça sert à reloger beaucoup de gens de cette petite savane.
Alors, il faut dire que c'est... Oui, vous avez cité les trois espèces, notamment.
Ouais.
Ils sont protégés, là, maintenant.
Oui, tiens, alors.
C'est ce qu'il se dit, parce que regardez...
Allez sur un marché de brousse.
Oui, mais ce que j'ai vu, les écailles.
Ah là, non, mais il y a les écailles, mais ça fait ventre. C'est bon, le pangolin.
Je vais goûter ça.
Si, mais là, c'est là, sur les marchés de brousse, ces animaux qui sont quand même extrêmement placides et faciles à capturer. Bon, ils sont en plein déclin, mais il n'y a pas besoin de les tuer puisqu'on arrive à les attraper comme ça, soit en les déterrant, soit en les prenant à la course. Les gens qui vivent dans la brousse savent très bien le faire. Et ces animaux donc arrivent tout vivants sur les marchés de brousse. À Abidjan, à Douala ou dans des endroits comme ça.
J'ai bien aimé la définition que donnait Pierre Desproges du pangolin et du tatou chaud, vous l'avez vu. Il dit « Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers avec des pattes, prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser qu'en effet, le ridicule ne tue plus.
» Voilà. Oui, tout à fait.
Voilà. Voilà. Il a présenté ses excuses à propos pangolin, quand même.
Oui, alors, puisque vous parlez de queue, et on va continuer à parler de queue, puisqu'on va parler des nombreux écureuils.
Ah oui, alors là, il y en a pas mal. Hein.
Il y en a une dizaine d'espèces dans cette savane africaine. Il y a 10 espèces d'écureuils terrestres, et il y a 8 espèces d'anomalures.
Anomalures, quoi, c'est ceux qui volent ?
Voilà, absolument. Ce sont les écureuils volants.
Oui,
faites-nous l'écureuil volant.
Ils se prennent l'arme en plein front. Non,
oui,
c'est ceux qui ont des espèces de peau.
Exactement, un petit peu comme ces types fantastiques qui maintenant fondent, qu'on a vu sortir d'un avion et rentrer à nouveau d'un avion.
Voilà.
Peut-être tout ça vient de Batman. D'ailleurs, Batman, c'est l'homme chauve-souris.
Oui, ils n'ont rien inventé.
C'est des membranes qui leur sont arrivées.
Voilà, des membranes.
Hein. Ils ne peuvent aller que de haut en bas.
Oui.
Mais ça leur permet justement d'éviter.
Mais ils font des sacrées longueurs. Ils font des sacrées longueurs, quand même, d'arbre.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, écureuil, la queue. On rappelle quand même qu'en grec, et c'est donc ce qui a donné le nom écureuil, en grec, écureuil signifie celui qui vit à l'ombre de sa queue.
Joli.
Justifie quand on voit un écureuil sous le soleil du Kalahari.
Ah donc, Kalahari, c'est le fameux désert.
Ça chauffe, j'ai pris exprès. Kalahari, d'ailleurs, qui veut dire, en bushman, la grande soif. Hein, parce que il peut faire chaud dans ce Kalahari-là.
Oui.
Hein. On va parler de l'écureuil fouisseur du Cap. C'est celui-là qui a aussi dans le Kalahari. Pourquoi il se sert de sa queue ? Bien sûr, c'est une ombrelle. Hein. Il se met à un endroit le moins chaud possible, mais il se sert de sa queue, il la met entre le soleil et lui.
Comme une ombrelle.
Et vous savez, il a fait passer par-dessus lui, la queue étant derrière, comme à chaque fois, chez ces animaux-là, monsieur.
Exact.
Et donc, ça lui sert d'ombrelle. Donc, écureuil qui vit à l'ombre de sa queue.
Le plus beau pour vous, moi j'en ai vu un qui était magnifique. J'ai des vagues souvenirs. Je crois que c'était l'écureuil d'Abert ou d'Albert. Je me souviens plus qu'il y avait une queue blanche qui revenait derrière la tête, qui était magnifique. Mais je sais plus où je l'ai vu, ça.
Beauté, moi, je sais pas ce qui vous émeut. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai vu qui étaient assis là-bas, justement, ces écureuils du Cap, qui étaient assis sur leur cul, vous savez, un petit peu comme
les suricates.
Et ces messieurs, ils pouvaient pas basculer en avant. Parce qu'ils ont une paire de choses qui est fantastique.
Ah bon?
Ah, c'est une... Et ils doivent avoir ça, ça doit leur donner des montées de testostérone extraordinaires, parce qu'ils sont balafrés, les pépères. Ils doivent se filer des peignets, c'est quelque chose.
Hein, ben j'espère que quand ils tombent de l'arbre, ils ne tombent pas assis.
Oh, ils vont quasiment pas dans les arbres, ils vivent dans des terriers. Et ils restent à terre. Alors, bien sûr, ils mangent les graines, hein, aussi. Mais les graines et aussi un tas de petits insectes. Le régime des écureuils, même ceux qu'il n'y a pas ici, c'est-à-dire l'écureuil roux, enfin, disons, l'écureuil européen.
Il n'y en a pas ici, en plus, champion.
Non, il n'y a pas d'écureuil. Ce qu'on appelle parfois à tort les écureuils, c'est les loirs.
Les loirs, voilà. Ou l'air. Ou l'air encore.
Voilà. Et les écureuils, donc l'écureuil roux, qui est celui de la caisse d'épargne, ils mangent aussi très souvent des oiseaux et des oisillons.
D'accord.
Donc, ils ont un régime relativement éclectique, mais bon, bien sûr, actuellement, c'est les noix, les noisettes, tout ce qui est graines et fruits secs.
Il y en a en Afrique, pareil, hein, ils mangent aussi la même chose.
Oui, bien sûr. Ouais. Dans les écureuils, alors, celui-là, c'est pas le plus gros, il y en a un qui est géant. Hein, il fait 60 cm avec la queue, il fait 2 kg. C'est pas mal, quand même, ça fait une grosse bête.
Ah ouais.
Par contre, à l'inverse, et ça, c'est fantastique, il y a l'écureuil pygmée.
Ah oui, il est tout petit, hein, du coup.
Bah, il fait 16 grammes.
Il fait 16 grammes, le pauvre.
Et alors là, je vais faire un coucou à Malili, parce qu'on va à nouveau parler du micro-seb de Madame Berthe, dont on a déjà parlé, le plus petit primate au monde. Alors, bon, il est à Madagascar, on rappelle que Madagascar n'est pas l'Afrique.
Hein, c'est loin de là.
Pas du tout la même vie, ni la même faune.
C'est presque un continent, l'Afrique, Madagascar.
Oui, tout à fait, mais qui n'est pas un dérivé de... C'est à côté de l'Afrique, mais ça viendrait plutôt, ça aurait dérivé de l'Asie.
Voilà, et puis allez dire à un malgache qui est africain.
Ah oui, tout à fait.
Ça va vous faire beau,
et donc ce micro-seb de Madame Berthe, pardon, c'est le plus petit des primates. Hein, donc c'est assez marrant, c'est dommage. On revient un peu à ces écureuils du Cap, parce que ils ont une méthode, ils vivent justement dans des terriers, mais dans des terriers collectifs. Hein. Il peut y en avoir une trentaine. Hein, et ce qui est assez étonnant, c'est que, on a dit, ils se servent de leur queue pour se protéger de la chaleur, mais aussi pour se mettre à l'abri des prédateurs. C'est-à-dire que ça les rend beaucoup plus gros.
Hein. Ils sont plusieurs.
Quoi. Donc, ils se gonflent la queue. Quoi. Ça leur sert de bouclier.
Dites-moi,
c'est vous qui avez l'esprit
magique. C'est celui qu'on appelle l'écureuil fouisseur, c'est ça?
Oui, c'est l'écureuil du Cap. Hein, puisqu'il vit. Alors, il fouille. Quel est le verbe qui correspond à fouisseur?
Il fouille.
C'est le verbe fuir.
Il fouille.
Courage fouissant.
Courage fuisson, enfin il cherche. Ouais. Alors c'est marrant parce que je suis tombé sur une photo, quand on les voit assis, effectivement, on dirait des suricates.
Oui, mais de toute façon c'est leurs voisins.
Hein. Ah ben voilà.
Oui, ouais, mais enfin, alors justement parce qu'ils sont en alerte permanente. En alerte permanente, parce qu'ils ont tous les prédateurs de la création,
sur
et
Dieu
sait s'il y en a là-bas, sur le dos. Les chacals. Ça c'est à terre, les serpents c'est à terre, mais ça fait pas de bruit. Et j'allais dire surtout tout ce qui vient du haut. Donc il y a tout un système d'alarme, un petit peu comme celui des suricates, ou comme celui des marmottes.
Ah oui, d'accord. Donc ils ont les rabats sur le dos, quoi.
Ah oui, ils ont tout sur le dos, quoi. La vie n'est pas facile. Ceux qui n'ont pas une vie facile, on parle des plus petits. On va parler du plus gros, là, justement. La plus grosse des antilopes, c'est l'élan du Cap. C'est Monsieur Élan.
Oh, il est beau, c'est beau, c'est magnifique, ça.
Élan de Derby ou Élan du Cap. Élan avec un D, hein, c'est assez marrant. Les hasards de l'orthographe font que l'élan, quand il est africain, il doit prendre un D. Quand il est européen, il ne prend pas de D. Cet élan du Cap ou de Derby, c'est
magnifique,
le plus gros, il peut faire quasiment une tonne.
Hein. Ah ouais.
2 mètres au garrot, avec une immense bosse, des cornes superbes qui montent en torsade, c'est une sacrée bestiole.
Et puis ils ont un pelage magnifique, on dirait du velours, c'est gris.
C'est des rois, c'est vraiment. Et puis le plus petit, à côté de ça, alors allez savoir pourquoi, c'est l'antilope royale. Et l'antilope royale, c'est le plus petit des ongulés africains, c'est donc une antilope. Hein.
Ouais.
Elle fait 25 cm au garrot, elle ne pèse que 3 kg. Et ce petit monde-là, ça survit dans la savane.
Comment vous l'appelez, l'antilope? L'antilope
royale.
Royale.
On l'appelle aussi dick-dick. Enfin, certains disent que c'est pas tout à fait la même bestiole. Sa défense, c'est la rapidité. Hein, c'est quelque chose. Oui, oui. Ça va à une vitesse, mais faramineuse. Je te vois encore, je te vois plus. Vous savez, c'est tac, 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 c'est comme ça. Bon, ça a des toutes petites cornes pour se défendre, qui sont comme 2 ou 3 centimètres. Mmh. C'est assez pointu, mais bon, ça, y a comme des gros prédateurs qui pourraient, qui n'ont rien à faire. Rien à faire. Donc c'est un nocturne, discrétion forcée.
Bah oui, il n'a pas le choix.
Et un cœur d'acier. Des gens se sont aperçus que lorsque la Kiba a une vitesse fantastique, hein, pas aussi vite que la musaraigne pygmée, mais ça doit aller à 500-600 à l'heure quand même. C'est à l'heure, à la minute,
à la minute,
pulsation. Hein. La musaraigne pygmée, plus petit mammifère, c'est le cœur bat à 1000 pulsations par minute. C'est une. Et j'ai lu quelque part, je ne l'ai pas retrouvé, mais il y a fort longtemps, j'ai lu qu'on s'était aperçu que ces petits animaux-là avaient aussi une faculté. C'était un petit peu comme les lézards perdent leur queue, hein, l'autotomie. Eux étaient capables de commander à leur cœur de se briser. En ce sens que ça leur évitait de souffrir s'ils étaient dans les mâchoires d'un animal qui n'était pas assez fort pour les tuer d'un seul coup.
Mais il a pour empêcher la souffrance, quoi.
Voilà. Donc, encore une fois, toutes ces choses
alors,
sont.
Vous m'en reparlez un petit peu de l'élan du cap, parce que vous disiez combien le poids? C'est quoi, 900 kilos, c'est ça?
Oui, 900 kilos, une tonne. Ah oui, ça fait. Ceux qui aiment le rugby, par exemple, connaissent tous les Springboks.
Ah oui.
Les Springboks, c'est un Springbok en bonne santé, il va faire 25 kilos.
Oui.
Donc c'est rien du tout. L'Impala est un petit peu plus gros, il va faire 70 kilos grand maximum, enfin à peu près à la louche. Donc c'est des animaux qui sont pas forcément très lourds. Toutes ces antilopes, c'est fantastique aussi. C'est vraiment toutes les strates qui peuvent être mangées, puisque elles sont toutes quasiment herbivores ou frugivores. Enfin, donc elles mangent sur les végétaux, soit au sol, hein, l'antilope royale, Dick Dick ou Rebby et autres mangent. Comme ils sont tout petits, ils mangent de l'herbe. Et après, plus ça monte, les basses couches des feuilles, les hautes couches des feuilles, etc. Pour aller jusqu'à le guérinouk, qui est l'antilope girafe, hein, qui est une antilope qui est mal dessinée, si j'ose dire, parce qu'elle a un corps normal, j'allais dire, d'impala, mais elle a un cou pratiquement de girafe. Donc ça lui permet d'accéder à des feuilles qui sont encore plus hautes. Et puis bien sûr, tout en haut, il y a la girafe.
En fait, il y en a deux qui sont pas très belles, Jean-Pierre. Une j'ai vu, l'autre non. Hein. Mais l'autre j'ai vu en photo, c'est ce qu'on appelle
le
topi, qui est pas terrible.
Ah oui, oui.
L'autre en photo, je l'ai vu, mais c'est le bubal. Et quand on regarde la troisième, que je trouve magnifique, parce que
la malisque.
Non, c'est la gazelle de Thompson.
Ah
qui
oui,
est une classe.
Ah bah, oui. Alors là, les gazelles sont des antilopes. On
voilà.
Quand
aussi.
Même. Hein, aussi. Là, le gazelle, d'ailleurs, je pense que c'est un mot arabe qui veut dire belle.
Mais c'est pour ça qu'on dit la gazelle et le gazou quand on va au Maroc en vacances.
Oui, ben voilà.
Qu'est-ce qu'elle veut, la gazelle?
Oui, tout à fait. Et donc, les gazelles de Dorcas, les Thompson.
Beau, hein.
Les gazelles, c'est plus, sauf justement la gazelle de Thompson et la gazelle de Grant qu'on retrouve dans les immenses savanes comme le Serengeti et autres, le mot gazelle était plus utilisé pour des animaux qui étaient plus au nord. Des animaux du Maghreb, par exemple. La gazelle de Dorcas ou autre, qu'on retrouve, qui étaient les proies autrefois des guépards, parce qu'il y avait des guépards dans le Sahara, maintenant des gens qui ont des jeeps et des kalachnikovs.
Malheureusement.
Donc c'est beaucoup plus facile. Et il y avait des gens, les toubous, chassés, j'en ai peut-être déjà évoqué ça, il y avait les oryx aussi, qui étaient
les oryx, vous savez,
qui sont
très,
des
très
immenses
beau.
Gazelles,
très,
qui très sont beau. Très très beaux, qu'on retrouvait aussi du côté du Moyen-Orient, les toubous, qui sont, je ne veux pas dire des touaregs, parce qu'ils sont ennemis, mais qui ont le même mode de vie nomade, étaient des chasseurs extraordinaires, parce qu'ils partaient à pied, derrière les oryx ou certaines gazelles, et c'est simplement 15 jours ou 3 semaines après que, à force d'obstination, ils arrivaient à attraper l'animal qui, lui, n'en pouvait plus non plus. Donc, ils le poursuivaient pendant parfois des semaines. C'était plus un rite, initiatique, parce que la déperdition d'énergie pour faire ça par rapport à ce qu'on pouvait récupérer, c'était pas proportionné.
On va parler de l'un de leurs prédateurs, puisque l'on parle des gazelles et tout ça, c'est bien sûr le lion. Et pour évoquer ce lion, on va écouter Henri Salvador. C'est la chanson de 1962. Ouais. C'est lui qui l'a créée. Et Wemboé, tout à fait. Ouais. Et ensuite, a été repris sur d'autres groupes comme Poe ou les Kings United. On écoute la version originale. Le lion est mort ce soir. Henri Salvador.
Naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
Ce cher Henri. Avec Jean-Pierre, nous évoquons cette fois-ci les petits moyens animaux de la savane. On l'a passé en revue, il y en avait quand même pas mal, notamment les rats, mais pas que. On a parlé aussi des antilopes, qui sont certaines vraiment magnifiques. Et là, alors, c'est quoi ? C'est un chat qui n'a pas été domestiqué, le serval ?
C'est un petit félin. Qui est vraiment l'animal, peut-être un des symboles de la fénilité.
C'est magnifique.
C'est simplement grandiose. Et c'est encore plus grandiose quand on a la chance de l'avoir vu chasser. Ces animaux que vous avez vus, c'est devenu un classique parce qu'on essaye de les filmer, c'est beau, c'est devenu des vedettes. Mmh. Vous savez, autour des points d'eau, il y a très souvent, on voit les oiseaux qui viennent voir. Et les oiseaux, en général, ils sont peinards. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont capables de les attraper pendant qu'ils sont en train de boire. Eh bien, les cervales sont capables... Un cerval, des cervales.
Ah oui.
Oui. Hein. Les cervales sont capables d'attraper des oiseaux au vol.
Ben alors, c'est quoi ? C'est parce qu'ils ont une puissance de...
Ils ont une détente faramineuse. C'est-à-dire qui est extrêmement brutale. Et en une fraction de seconde, le bout de leur patte avant... atteint 3 mètres de haut.
Donc à l'image des guépards, ces animaux-là, quoi.
Oui, mais eux, c'est une détente verticale.
Verticale, oui. D'accord.
Alors, ils ont une détente horizontale, effectivement, comme beaucoup d'animaux. Il faut se rappeler que là, on parle quand même simplement d'un animal qui fait 40 un peu plus de 40 cm au garrot.
Ouais, c'est petit, quoi.
Qui est un petit lynx, si vous voulez, qui est très beau, on va le décrire. Hein, bon, il fait 13-14 kilos, les mâles les plus gros. Ils sont jamais gros, ils sont toujours complètement effilés. Hein. Ils ont une très très belle fourrure, avec un petit peu comme celle d'une panthère.
Hein. Belle tête.
Une belle tête, tout est beau dans le serval. On l'appelle aussi d'ailleurs, bon, pour situer un petit peu, le lynx du désert. Ce n'est pas un caracal.
Non, donc c'est différent. Le caracal, il a pas ces couleurs-là, le caracal, en plus.
Il est beaucoup plus fauve.
Beaucoup plus fauve. Hein.
Ouais. Et il a, lui aussi, il a encore plus lynx, si j'ose dire, puisque les oreilles de notre serval sont rondes, il n'y a pas la touffe de poils. Et donc, alors, celui-là, c'est un sacré chasseur. Donc, il attrape des petites proies, on l'a dit, des petites antilopes. Il court à 80 km/h, quand même, ce petit machin.
Ah oui, donc, c'est le cousin du léopard, quand même. Hein. Dans sa vitesse.
Oui, c'est un cousin, tout à fait. De toute façon, c'est les félinés, félidés, on parle que des plus petits. On n'a pas le temps, mais si vous permettez, cet écho des savanes aura de l'écho, parce qu'on a encore beaucoup de d'espèces à présenter, puisqu'il y a énormément de chats, par exemple.
Mais dites-moi, Jean-Pierre, juste une question. Vous parlez du serval. Il s'attaque à quoi comme animal? Parce que c'est un carnivore. Donc, vous m'avez parlé des rongeurs, d'accord, les lapins et tout ça. Mais il peut aller plus gros? Il est assez fou, non?
Pas tellement, d'autant plus qu'il n'a pas une mâchoire fantastique.
Ah, hein. D'accord.
Il a même du mal, on dit qu'il a souvent du mal à mâcher, donc parfois c'est en dotant. Alors c'est vous qui l'avez voulu. Il avale, et puis comme ça passe mal, il déglutit et il reprend.
Bon.
Donc voilà, c'est à l'heure du repas.
Je l'aime plus.
Oui. Alors il a une descendance maintenant. Il est maintenant rentré dans les salons. En particulier en Australie, puisque, alors le nom est bien choisi d'ailleurs, il y a une race de chats qui maintenant est au livre des chats, c'est officialisé, c'est une race qui s'appelle le Chavana. C'est très bien d'ailleurs, le nom est amusant, mais c'est Chavana, le croisement improbable du chat domestique et d'un serval. Hein, c'est une race inventée en 96. Alors, on dit que c'est parmi... Alors, il y a tout le temps des gens qui vont dire que c'est pas vrai, etc. On dit beaucoup que les Maine Coon sont des chats extrêmement gros.
Hein, oui.
Mais
oui.
Ceux-là sont censés pouvoir peser jusqu'à 13 kilos. 43 cm au garrot. Et apparemment, ils sont très sympas. C'est des chats très sympas. Avec un vrai problème, d'ailleurs, c'est de... Pour que ça... Vous savez, on a souvent parlé de ça. Pour qu'une race puisse perdurer... ce qu'on appelle une race, il faut que les descendants ne soient pas stériles. Or, c'est un hybride.
Et oui.
Donc il y a des problèmes, on sait. Mais il y a maintenant, ça c'était une loi de la nature, c'est pas forcément la loi des hommes scientifiques actuels. Ils sont capables de vous faire des choses qui sont... du moment que derrière il peut y avoir un intérêt...
Je vois pas trop, moi je vois pas l'intérêt, mais bon...
Alors c'est une bestiole fantastique. Hein. Et puis c'est l'intérêt aussi...
Non, c'est le croisement que je trouve nul, Jean-Pierre.
Ah ben non, bien sûr. Non, alors il y a même, on a réussi à croiser des caracals avec des servales.
Ça donne
et
quoi
ça donne une malheureuse bestiole qui ne sait pas comment elle s'appelle. C'est tout le monde difficile de ces gens qui ne savent pas où se mettre. Hein, c'est quoi. Et c'est, alors, le nom est aussi amusant. Cerf, caracal, c'est devenu cervical.
N'importe quoi.
Donc peut-être c'est en comptant les vertèbres, je ne sais pas. D'accord, c'est n'importe quoi. C'est complètement à l'encontre de cette merveilleuse savane qui est le point de départ de toutes les évolutions.
Et puis bien sûr, ça va à l'encontre aussi de ces animaux-là qui sont magnifiques.
Évidemment, mais ça c'est tout à fait. Mais c'est le point de départ de toutes les évolutions, puisque ces animaux-là ont évolué, sont comme ça, à un moment où Lucie était en train, elle aussi, de se mettre toute droite. On parle de cette savane, on rappelle quand même que c'est le berceau de l'humanité.
Bon, écoutez, on la connaît maintenant. On n'a pas fini d'en parler, bien sûr, de cette savane et ces animaux, parce que la liste est très longue, on y reviendra.
Le rater, le Monzori, alors, vous ne voulez pas?
Ben, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le temps, mais on va y revenir, au Monzori.
Ah, bah oui, oui,
plutôt, on va revenir dessus.
Monzori,
c'est quelqu'un.
Là, il y a quelqu'un, là.
Courez-vous. Bon, mon Jean-Pierre, on se retrouve la semaine prochaine.
Bah, tiens.
Hein. Bah, si.
On n'est pas encore fâché?
Pas encore.
Bon.
Non, mais je pense pas que ça arrive.
Patience.
Non, pas que ça arrive. Il faut vraiment qu'on fasse exprès.
Je suis un garçon gentil.
Voilà. On va se quitter avec Maxime Le Forestier. Dimanche prochain, Jean-Pierre.
Allez, au revoir.
Nina monti femme mon la casse, qui n'a pas cesse tout à guetter. Dans ma tête j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu veux en me donne-toi, tu robe à fleurs moi donne-toi. Ça pour la paille tu peux gagner, tu fais du kata kata dans mon la casse. En bas la bas, en bas la bas. En bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas. En bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. Tina mon bateau Marie-Thérèse, Tina l'âme son numéro un, Tina mon la ligne pendant, qui pêche poisson dans l'eau brisant. Tout ce que tu besoin, me donne-toi, tu robes à fleurs, moi donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner, tu fais tout kata kata dans mon encasse. En bas là-bas, en bas là-bas. En bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas. En bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. Dans ma tête j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu besoin me donne-toi, tu robe à fleurs me donne-toi. Ça pour la paille tu peux gagner, tu fais tout kata kata dans mon lacas. En bas là-bas, en bas là-bas. En bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas.